nous avançons et nous sommes à la cinquième parole de Marie. Hier, je vous disais on avait les paroles qui montaient avec le sommet, avec la flamme d'amour jubilant dans le Magnificat. Et puis, on va ouvrir un autre versant aujourd'hui. Cette parole, c'est au recouvrement de Jésus au temple. C'est mon enfant. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Et on va contempler, ne soyez pas étonnés, la flamme d'amour qui savoure, flamma amoris saporantis, et comme don du Saint-Esprit, ce sera le don d'intelligence. Et rien que là, il y a un défi, on va essayer de le relever. Il n'y a pas de parole entre le Magnificat et les 12 ans de Jésus. Dans les premières paroles, il y a quelque chose de complet, hein, avec... de joie, finalement, de joie, de la simplicité de Nazareth, qui est illuminée par le regard de Jésus, en qui Marie voit le regard de son Dieu. Et il y a un événement imprévu qui va troubler cette paix. Ils ont l'habitude d'aller chaque année pour la Pâque à Jérusalem. Jésus y est emmené, et cette année est de ses 12 ans, est une année importante, il faut bien le prendre en compte, parce que les 12 ans, alors est-ce que le pèlerinage c'est juste avant, est-ce que c'est juste après, est-ce que c'est pendant, on ne nous le dit pas, mais symboliquement 12 ans, c'est l'âge de la maturité religieuse pour un homme juif. C'est-à-dire que s'il a été obligé depuis sa naissance, de pratiquer les commandements qu'on appelle négatifs, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., qui sont valables pour tout le monde, eh bien, comme jeune homme, il est appelé à accomplir tous les préceptes, il est tenu. Et c'est un devoir, c'est un honneur, hein, parce que c'est la place de l'homme de se tenir devant Dieu. Ça, c'est amusant, nous on a l'habitude, c'est les femmes qui vont à l'église, et dans le judaïsme, c'est l'homme qui est responsable de la prière. La femme est responsable de la vie, mais l'homme est responsable de la prière, de se tenir devant Dieu. Et c'est un âge important parce que c'est l'âge adulte, hein, c'est l'âge qui va consonner tout de suite. La question avec Marie qui va trouver Jésus au milieu des docteurs, c'est qu'est-ce qui se passe? Sa majorité, est-ce qu'il prend sa responsabilité? Est-ce que c'est la vie publique qui commence maintenant? Voilà, enfin, tout ce qui va être en jeu ici. La jubilation du Magnificat paraît bien loin avec cette perte de Jésus. Et cette phrase de Marie, mon enfant, pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait cela? Marie est dans la tristesse. Elle est complètement déroutée par cette conduite de Jésus, par sa réponse, on va le voir. Et elle dit elle-même, nous sommes... mon enfant et moi, nous te cherchons tout angoissés, tout bouleversés, tout tourmentés. Le terme grec qui est utilisé est assez intéressant, c'est odounomenoi, pour ceux qui sont grécisants. C'est un mot qui est employé que 3 fois dans Saint Luc, ici, et les 2 autres fois nous montrent bien l'ampleur, le retentissement de l'épreuve ici pour Marie. La fois où c'est employé, c'est dans la parabole du riche Épulon. Hein, le riche qui fait bombance, et avec le pauvre Lazare qui est au pied, qui voudrait bien s'alimenter des miettes que les chiens ramassent du festin. On a, après la mort de Lazare, qui est dans le sein du Père, on a le riche qui meurt à son tour et qui se trouve dans les tourments de l'enfer, hein, dans les souffrances. Cette souffrance qui n'a pas de. Alors, vous savez, il demande, eh ben, permets au moins que j'envoie Lazare, au moins pour le dire à mes frères, ou demande à Lazare de venir tremper son doigt dans l'eau et puis de me donner une goutte à boire parce que je suis dans les tourments. L'autre fois où on a ce mot chez Saint Luc, c'est dans les Actes des Apôtres, au moment des adieux avec les anciens d'Éphèse. Ils sont à Milet. Et Paul est à la fin de son troisième voyage, qui n'est peut-être pas tant un voyage que ça, parce que plutôt l'impression qu'il s'est établi à Éphèse, ça fait 3 ans qu'il y est, et il s'en va pour donner la collecte qu'il a recueillie de toutes les églises de Grèce et à Jérusalem pour soutenir l'église de Jérusalem, parce que Jérusalem à cette époque-là est dans une famine incroyable et a besoin du secours de tous les juifs de la diaspora. Et il y a plein de prophéties, il y a un pressentiment chez Paul, mais il y a aussi plein de prophéties qui disent qu'il ne reviendra pas, qu'on ne le verra plus, que si ça va être qu'il va être persécuté, etc. Et donc les anciens d'Éphèse viennent le voir à Milet, sur le port de Milet, et c'est les adieux. Et ils s'embrassent affligés de la parole, des paroles qui ont été dites, justement, de toutes ces prophéties. C'est vraiment l'affliction, le tourment d'un adieu où on sait qu'on ne va pas revoir quelqu'un qu'on ne va pas revoir quelqu'un de cher. Et ici, Marie et Joseph sont dans une souffrance comparable à celle du séjour des morts ou à un adieu d'un être cher. Vous voyez, c'est intéressant, juste une petite parenthèse, quand vous faites lisez un texte biblique, vous allez voir où le mot ailleurs est employé, et quand c'est des emplois rares, c'est plus facile, hein, mais vous voyez un peu la teneur, ce qu'on a derrière la tête, ce que veut exprimer le mot. Hein, pour Marie, ici, d'avoir perdu Jésus, c'est une souffrance comparable à celle du séjour des morts ou à celle d'un adieu d'un être cher qu'on sait qu'on ne reverra plus. Et comble de difficulté, c'est que la réponse de Jésus, elle ne va pas franchement l'aider dans un premier temps. Elle est plutôt comme un glaive, la flamme rougeoyante de l'épreuve, de la souffrance. C'est intéressant de voir que Marie, toute immaculée qu'elle est, tout en consonance avec Jésus, n'a pas été épargnée. Et elle va aboutir, cette souffrance aussi, à une profondeur plus que nulle autre. C'est que la conduite de Jésus est incompréhensible à son cœur maternel. Jésus, si obéissant, si en communion, si fils bien-aimant, le fils le plus aimant, disparaît sans rien dire. Elle le laisse dans l'inquiétude, le tourment, comme s'il l'avait oublié. Hein? Et pendant 3 heures, enfin, il s'en est pas occupé, quoi. Il est parti. Il est à d'autres affaires, comme il dira. Et le plus douloureux, c'est la réponse où pratiquement Jésus leur reproche de les chercher. Hein. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Hein. Je ne sais pas comment vous le prendriez si vos enfants vous répondaient comme ça. Hein. Si c'est pour ou de la naïveté ou de l'insolence, ou enfin, c'est pas comme ça qu'on répond, c'est pas. Et c'est la première parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Première parole de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette première parole va nous révéler, nous donner quelque chose de l'identité. Il révèle quelque chose de son identité. Il dit d'emblée qui il est et comment il se situe par rapport à Marie et Joseph. Il n'en reste que cette parole, elle est comme un glaive qui fait souffrir. mais qui en même temps, et on va le voir dans le cœur de Marie, mais qui en même temps la réjouit. Parce que si on prend du point de vue de la sensibilité et de l'intelligence, c'est difficile, mais en même temps, ben, Jésus, il est aux affaires de son Père. Il dit qui il est, ce qu'elle attend, parce qu'on attend le Messie, et elle sait qu'il est le Messie, et il doit se révéler un jour. Est-ce que c'est pas maintenant? Et j'allais dire, il est là, et c'est le ton de Dieu n'est pas endormi. Et c'est ainsi que saint Bernardin de Sienne contemple cette flamme d'amour qui savoure. C'est la flamme de l'épreuve, mais qui quelque part fait grandir. C'est la flamme de l'épreuve, mais qui finalement aussi entre plus avant dans le lien d'intimité que veut Jésus, qui unit Jésus pendant à son Père. Et c'est comme pour Marie une préparation à la mission de son Fils, hein, et à la mission de rédemption et à la mission de la croix. Déjà la croix ici qui se profile, et Marie est comme préparée, éduquée à être à l'unisson, j'allais dire à ne pas se faire d'illusions comme beaucoup se sont fait d'illusions sur Jésus. Voilà, le Sauveur est arrivé, ils mettent les Romains dehors, et on avait tous dans la tête que le Sauveur c'était celui qui allait mettre les Romains dehors et rétablir le royaume en Israël. Et refaire le grand Israël qu'on avait dans le temps, eh bien, non. Ce qui est consolant, ce qui est beau, c'est de voir Jésus qui remet sa vie dans les mains du Père. Et si vous voulez, il y a quelque chose dans l'épreuve, quelque chose qui est dans les épreuves, c'est vrai. Dans la vie spirituelle, et les saints l'ont beaucoup commenté, mais ce n'est pas vrai que dans la vie spirituelle, c'est vrai aussi dans nos épreuves humaines toutes simples, quand elles sont vécues bien sûr dans la foi. Vous savez, dans saint Jean de la Croix, etc., sainte Thérèse d'Avila montre que nous avons à dépasser la joie, la contemplation des perfections divines pour nous attacher à l'être même de Dieu. Hein, c'est la fameuse phrase de sainte Thérèse d'Avila qui dit « S'attacher non aux grâces de Dieu, mais au Dieu des grâces. » C'est d'aller au fond de l'amour. Et dans tout amour, de toute façon, il y a ce dépassement à faire. On aime l'autre pour ses qualités, pour les choses qu'on a vécues ensemble, pour un certain nombre de choses, toutes nos motivations. Et puis... nous sommes appelés à aimer vraiment au fond du cœur l'autre dans son être et pas seulement dans les qualités qui nous ont séduites, qui nous plaisent, qui sont dans l'harmonie, etc. Et c'est vraiment ici ce passage, hein, pour Marie, et ce passage qu'elle nous invite à faire pour être attachée au Dieu des grâces et non pas simplement aux grâces de Dieu. Et du coup, elle va être libre et du coup... Vous voyez, il va y avoir, pourquoi le don d'intelligence? Parce qu'elle va rentrer dans l'intelligence de l'épreuve. Elle va nous faire rentrer dans l'intelligence de nos épreuves. Avec ce qui se profile, bien sûr, c'est la mission de Jésus et la croix. Mais elle va rentrer du coup dans le vrai sens de la parole de Dieu, dans le vrai sens de la mission de Jésus, qui est la mission de rédemption, et de proportionner nos cœurs au cœur de Dieu. Mais n'empêche que pour l'instant, et le texte insiste, non seulement le texte, mais Marie insiste, ils ne comprennent pas. Alors une chose intéressante, c'est que dans ce texte, il y a quand même deux indices qui vont nous révéler, parce que dans l'épreuve, on peut... balancer dans la révolte, un refus, dans ce, on se cale sur les choses, et puis non, sur son droit. Et ici, il y a deux indices qui vont nous montrer un autre versant de leur docilité, de leur adhésion inconditionnelle à la parole mystérieuse de Jésus, de la docilité à la, au don inconditionnel de Dieu en Jésus, de cet amour qui est donné. Le premier indice, c'est que Marie ne répond rien. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas comment vous réagiriez avec votre fils qui vous répond après un tel coup et qui vous répond de telle manière. Et hein, après sa fugue, on a quand même pu dire, bah, t'exagères, t'aurais pu nous prévenir, comment tu peux nous répondre de cette manière, enfin je ne sais pas, imaginez un peu ce que vous pourriez dire. Hein. Et ici, Marie ne dit rien, mais elle accueille avec foi. Et le deuxième indice qui nous est donné par la suite du texte aussi, elle garde, elle médite, elle repasse dans son cœur, cherchant à comprendre. Vous voyez la fin du texte. Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Et après, on nous parle de Jésus qui grandit en sagesse, en taille, en grâce auprès de Dieu. Mais Marie aussi grandit et Joseph vont grandir dans cette épreuve. Marie, elle est éprouvée, et de manière, on comprend bien, dure, mais elle renonce à un simple regard humain, à mesure humaine, et elle regarde avec foi, avec son cœur qui sait qui il est, même si elle ne comprend pas. Et elle exprime sa détresse. Pourquoi ? Et en même temps, elle accueille la réponse, avec un cœur soumis et confiant. Même sans comprendre, elle accueille. Et si elle accueille, c'est qu'elle voit plus loin. Vous voyez, souvent, on comprend pas la patience de Dieu. Et j'aime bien dire à chaque fois, si Dieu est patient, s'il y a cette, pour exercer la patience, ça ne veut pas dire que, bon, ben, je relativise la vérité, je relativise la gravité des choses. Bon, allez, c'est pas grave, on passe l'éponge. C'est pas ça la patience. Hein? La miséricorde de Dieu, elle est à la fois amour et vérité qui se rencontrent. Hein? C'est pas une minimisation des choses, c'est simplement Dieu, il est plus haut que nous, hein? Et du coup, il voit plus loin. Il n'enferme pas dans les actes, donc il voit plus loin. Et il voit dans le cœur du pécheur, il voit aussi l'enfant bien-aimé qui peut se développer et donner du fruit. Et ici encore, vous voyez, bon, on n'a pas de parole de Marie à la croix, donc on va en parler un petit peu, mais c'est une préparation à la croix. Et sans cette préparation, peut-être qu'elle n'aurait pas pu être debout au pied de la croix. Et ici, Marie, encore, vous voyez, comme dans l'Annonciation, elle interroge. C'était comment ? Ici, c'est pourquoi ? Et à la croix, elle ne dira plus rien. Elle ne sera pas dans « Pourquoi te laisses-tu tuer ? Pourquoi... etc. etc. » hein? Mais à la croix, il y aura encore un pourquoi, mais ce sera le pourquoi de Jésus. Ça, je laisse à votre méditation. Hein, c'est assez intéressant. Et ces deux pourquoi se répondent quelque part. Le pourquoi de Marie et le pourquoi de Jésus qui se répondent. Et ces deux pourquoi qui restent sans réponse quelque part. Toujours est-il que le don d'intelligence va permettre, et ça c'est pour nous, de demander ce don d'intelligence, ce don de voir plus loin que simplement à vue humaine de ce que nous comprenons pour l'instant, Ils ont une capacité de comprendre plus, d'élargir. La faculté de l'épreuve, c'est d'élargir notre cœur. Je me souviendrai toujours de cette maman dans le groupe Foi et Lumière à Rome, hein, qui me témoignait comment, avec un fils qui avait 16 ans, 16-17 ans à l'époque, qui était aveugle, sourd, enfin, handicapé mental, donc autiste aussi en plus, hein, qui au fil des années avait acquis une qualité de cœur et de paix, de sérénité absolument incroyable, alors que sa vie avait été bouleversée. Je me disais, mais quand on était jeune marié, la vie nous souriait, elle devrait être comme ça, comme ça, comme ça, toutes les choses que j'aimais, etc. Et il y a eu une épreuve énorme, un renoncement énorme. Mais j'allais dire, son cœur n'est pas resté rabougri. Hein? Elle a développé des qualités de son cœur et une capacité d'amitié, d'accueil, non seulement de son fils, mais enfin de beaucoup d'autres personnes, etc., qu'elle n'aurait jamais, très vraisemblablement, développé dans d'autres circonstances. L'épreuve a agrandi, a permis de comprendre des choses. Quand on fait de l'accompagnement, etc., ou quand on regarde des gens qui font de l'accompagnement, c'est assez intéressant de voir comment les épreuves, les difficultés qu'on a pu rencontrer personnellement, quelque part, nous aident à accueillir aussi des épreuves, des choses qu'on entend, un certain nombre de personnes, parce que ça a approfondi notre manière de voir. Mais il reste que n'empêche, dans l'instant de l'épreuve, sa butée. Dieu aime que nous puissions dire nos pourquoi. Alors on va pouvoir passer regarder rien que dans les psaumes, hein, et les psaumes justement c'est très important, et la prière dans ces moments c'est important, parce que ça permet de nous accompagner dans ces moments-là, hein, de nous faire dépasser, de pouvoir exprimer ces pourquoi. Marie, je vous dis, elle ne répond pas, elle reste dans le silence, mais c'est pas un silence qui la referme, qui est un « je mets une pierre dessus », hein, mais son intelligence va chercher, pas intelligence, vous voyez, souvent notre intelligence, elle marche parce qu'il faut qu'on réduise les choses à nous-mêmes, hein, à ce qu'on comprend directement. Non, mais là, c'est une intelligence qui va chercher le sens et qui va l'ouvrir. Alors, dans les psaumes, vous avez ces cris, j'en prends quelques-uns comme ça, le psaume 10, par exemple. Verset 1. Dans les numéros, c'est pas dans la liturgie, là, c'est dans la Bible. Pourquoi, Seigneur, rester éloigné et te cacher dans les temps de la détresse, hein? Vous voyez, c'est pourquoi. Psaume 41, c'est la même chose. 41, verset 10. Alors, ça, c'est 42 dans la Bible. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, les adversaires m'insultent en me disant tous les jours, où est-il ton Dieu? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, oui, je le célébrerai encore. Alors vous avez des tas de passages comme ça, et puis il y a un psaume qui pose la question du pourquoi, un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume que j'appelle le psaume de Gaston Lagaffe. Parce que dans la Bible de Jérusalem, ça commence par « m'enfin ». Et ça revient, c'est comme dans d'autres traductions, ils sont un peu plus corrects, ils disent « en vérité, Dieu est bon pour Israël », mais enfin c'est « m'enfin ». Hein? C'est pourquoi. Enfin, pourquoi on dit « m'enfin, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur ». Alors il dit « pourtant j'avais perdu pied ». À rien je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des parvenus. Je voyais la chance des impies. Ils ne se privent de rien jusqu'à leur mort. Ils ont la panse bien grasse. Ils ne partagent pas la peine des gens. Ils ne se sont pas frappés avec les autres. Alors ils plastronnent avec orgueil, drapés dans leur violence. Leur œil apparaît tout brillant dans leur graisse. Leur visée et leur cœur y sont transparentes. Ils ricanent, ils parlent d'exploiter durement et de haut ils parlent. Ils ouvrent la bouche jusqu'au ciel et leur langue balaie la terre. Ainsi, le peuple de Dieu se tourne de ce côté et tout le monde va de ce côté-là, hein, où l'eau coule en abondance. Ils disent, comment Dieu serait-il? Y a-t-il un savoir chez le Très-Haut? Et les voilà, ces impies qui, toujours tranquilles, accroissent leur fortune. Et puis après, il se dit, c'est quand même nul, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, etc. Hein, et voilà, c'est pas possible. Je lis le texte ici, il n'est pas si loin de ce que je suis en train de dire, parce que c'est dans cette méditation devant l'épreuve, vous voyez, il est ici, Dieu est bon, mais enfin, c'est pas vrai, pourquoi, c'est pas possible. Et puis parce qu'il est tenté de revenir au principe du monde, de regarder à vue humaine. Ben oui, les gens qui croient en rien, et ben ils se développent, et puis ils font leurs affaires, etc. Et je vois pas pourquoi je ne marcherais pas. Puis c'est comme ça, suivant l'esprit du monde. Hein, suivant l'esprit du monde, je devrais, comme me disait Rosa, enfin la dame dont je parlais tout à l'heure en truc, ben j'aurais eu une vie, on aimait bien aller danser, etc., on aimait bien faire la fête, etc. Ben la fête, c'est plus possible avec un fils, parce qu'il faut être là. Mais enfin, c'est pas possible. Et la suite du psaume est assez incroyable. J'ai réfléchi pour comprendre ce qui m'était pénible à voir. Vous voyez, elle garde ces choses dans son cœur. Alors, j'ai réfléchi, et ce qui m'était pénible à voir, jusqu'à ce que j'entre dans le mystère de Dieu, ou de le sanctuaire, on peut traduire dans les deux manières, hein, et discerne quel serait leur avenir. Et il remet en place, après, il repasse ensuite tout ce que font les méchants, mais il en voit finalement que c'est pas la bonne lumière, que ça n'aboutit pas, que finalement ça, voilà, hein, et que lui, il va découvrir. Alors bon, ça se fait pas facilement. Moi, j'aime bien ce psaume parce que les psaumes, c'est bien parce que ça nous met pas dans l'illusion. Hein. Ici, alors que j'avais le cœur aigri, les reins transpercés, moi stupide, ne comprenant rien, j'étais comme béhémoth, hein, c'est comme une bête, c'est comme un bœuf, quoi. Hein, mais j'étais avec toi. Car je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras selon tes vues et tu me prendras derrière ta gloire. Qui aurais-je au ciel puisque je suis avec toi? Je ne me plais pas sur la terre. J'ai le corps usé, le cœur aussi. Mais le soutien de mon amour, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours. Voilà donc, qui s'éloigne de toi périra, tu détruis qui te laisse et se prostitue. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris refuge auprès de Dieu pour annoncer toutes tes actions. Vous voyez, c'est vraiment cette rentrée dans l'intelligence. Hein. Et ici, on voit un peu les étapes. Hein. Quand on pose le pourquoi au début, ben, on fait la comparaison avec le monde. Ben, s'il n'y avait pas cette épreuve, ce serait comme ça. Et puis, je pourrais continuer à bâtir ma vie suivante, souvent sur les principes du monde, etc. Et puis, je réfléchis, je comprends. Et tout s'éclaire quand je rentre dans le mystère. Ce mystère de la croix, ce mystère de Jésus. Et après, je suis encore là, je revois les choses un peu mieux. C'est pas forcément fluide, c'est pas forcément une lumière qui va... C'est pas l'amour jubilant encore, hein, mais parce que je suis là comme ça, je ne comprends pas très bien, mais je suis avec toi. Et c'est découvrir cette présence de Jésus dans l'épreuve qui va... finalement nous faire grandir et nous faire porter un fruit nouveau, ce fruit du Seigneur. Alors, dans la Bible, il est 73. Et lisez la Bible de Jérusalem, c'est trop drôle, c'est « mais enfin ». Bon, l'apostrophe, c'est moi qui la mets, mais enfin, c'est « mais enfin hein. ». Quand même... Et donc, vous voyez, le don d'intelligence nous amène à découvrir le sens de l'épreuve. Alors, il faut être très délicat quand on parle du sens de l'épreuve. Hein, parce que jamais c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui va vous faire découvrir quel est le sens de l'épreuve. Et méfiez-vous les gens qui vendent du sens. Nous ne sommes pas des marchands de sens. Ça, c'est très important. Mais on peut accompagner quelqu'un par la prière, par la présence, par le dialogue, quelqu'un qui recherche le sens. Mais ça ne peut être, c'était toujours une histoire entre Jésus et nous. Hein, le sens de la croix, c'est la même chose. Très souvent, on utilise, ah bah oui, mais il faut que tu aimes la croix, etc., faut que tu te renonces à toi-même, etc. Et puis, on le dit souvent sans bouger le petit doigt nous-mêmes, hein, et du coup, ça n'a aucun sens et c'est contre-productif. Hein. Mais nous avons, l'Esprit Saint nous assiste et nous avons à faire ce travail pour découvrir. Parce que même dans les épreuves, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il les traverse avec nous, c'est vraiment tout le sens de la croix, de la passion et de la résurrection de Jésus. Et du coup, dans cette épreuve, Marie va pouvoir naître à une nouvelle joie, une joie mystérieuse. Je raconte pour la petite histoire, je parlais de foi et lumière en Italie, là, j'étais dans les années 80, 84 et suivantes. Et j'étais à Foi et Lumière, et donc Foi et Lumière, un mouvement pour les parents, les amis et les enfants handicapés mentaux. Et le mouvement a failli exploser à cette époque-là. Parce que ceux qui marchaient déjà avec Foi et Lumière depuis une dizaine d'années avaient avancé et découvraient finalement un sens de l'épreuve d'avoir un enfant handicapé. Et il découvrait, il pouvait dire, et il disait, ben, mon enfant avec un handicap, c'est un don de Dieu. Hein? Après avoir passé toutes les difficultés de l'acceptation, etc. Et puis, et alors, ils étaient un peu dans la louange, à dire, et puis à dire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et les nouveaux parents qui arrivaient, la parole était insupportable. Insupportable, parce qu'ils n'en étaient pas là. Donc, ça a failli vraiment faire exploser les choses, parce que le vocabulaire du mouvement qu'eux avaient découvert, etc., enfin la réalité avec le vocabulaire, mais était... Non, il y a ce travail à faire. Nous avons ce travail à faire. Et devant chacune de nos épreuves, ou les épreuves en général, toutes les épreuves qui nous touchent aussi d'une manière très intime dans notre construction, dans nos repères, dans ce qui est les fondements de nous, eh bien... Il y a ce travail, hein, il faut impliquer et il ne faut pas précipiter le don d'intelligence. Une amie comme ça qui a perdu ses deux enfants jumeaux dans les premiers jours, quoi, qui sont morts pratiquement tout de suite après la naissance, et qui connaissait un petit peu les nœuds à cause de sa profession du travail de deuil. Et je l'ai vue dans les premiers jours et comme elle savait les choses du travail de deuil, elle les vivait, mais elle les vivait intellectuellement. Hein? Donc les réponses étaient toutes très bonnes et tout ça. Je me dis, n'empêche que 2 mois après, elle a explosé complètement. Elle s'est effondrée complètement et ça a été très difficile parce que le travail, il est plus profond. C'est pas des choses qu'on a apprises, c'est pas des choses qu'on... On va beau avoir lu les choses dans les bouquins, c'est pas les bouquins, c'est pas les conseils des autres qui font le travail à notre place. Ça peut-être nous éclairer, mais il faut prendre le temps de descendre dans le fond de notre cœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici Marie qui médite, qui garde dans son cœur, qui avance. Mais il y a vraiment le don d'intelligence qui nous est donné. Mais le don d'intelligence, c'est pas nous, c'est pas un... C'est pas la salière qu'on met pour que ce soit bon juste au dernier moment. Hein. C'est vraiment un don qui est à accueillir, qui nous accompagne et qui marche au long de notre chemin. Et ensuite, si vous voulez, quand Marie sera à la croix, j'aime penser qu'elle se souviendra de cette parole de Jésus, qui la soutiendra. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Et cette parole, je pense, l'a soutenue à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Jésus, même si elle ne comprend pas, si on ne comprend pas la passion, enfin, je ne sais pas qu'on ne pouvait pas comprendre, enfin, on voit bien, personne n'a compris autour. Quand Jésus parle de sa passion, c'est la révolte, quoi. Ça, jamais, hein, dit Pierre. Et puis, ils ne le suivent pas à ce moment-là, même s'ils ont fait des petites déclarations affectives à un moment, on va aller mourir avec toi, bon, mais après, il n'y a plus personne. Hein. Et pour Marie, c'est, mais Jésus, je ne comprends pas, mais il est là où il doit être. Parce que Jésus a tellement insisté en disant, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté par les chefs des prêtres, etc., et qu'il meure et qu'il ressuscite. Parole un peu incompréhensible, au moins dans la manière, hein, mais Marie, elle sait, et elle a son cœur. Vous voyez, il y a des paroles de Dieu dans notre vie, comme ça, hein, qui nous marquent, qui sont profondes, qu'il faut savoir garder, parce que qui sont un point. Je ne sais pas comment ça va se réaliser, je ne sais pas. Il ne faut pas essayer de passer au mode imaginatif pour construire les choses, mais il y a des paroles comme ça qui sont des fondements, et qu'on sait que Dieu est là, on sait qu'il est fidèle à sa parole. Et du coup, son cœur maternel se ferait un passage grâce à cette petite flamme de l'amour qui donne du goût, qui est le don d'intelligence et qui fait découvrir la vraie saveur de la parole de Jésus. Et alors après, il y a des choses étonnantes, vous voyez, c'est la joie de Paul, la joie des apôtres, de souffrir pour le nom de Jésus. On les voit, ils étaient tout contents d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Mais parce que ça a ouvert quelque chose en eux. Et Marie nous enseigne à vivre l'épreuve, à vivre les épreuves. Et très souvent, d'ailleurs, dans l'épreuve, on souffre plus de ne pas comprendre le sens que de l'épreuve elle-même. On souffre du silence de Dieu, de l'inaction apparente de Dieu. Mais il y a cette petite flamme qui nous est donné, qui est donné à Marie pour tenir bon, pour avancer. Jésus a dit qu'il est aux affaires du Père, et finalement, quelque part, ça suffit. Ça suffit à donner une petite lumière, une petite porte, un petit fil à suivre pour vivre l'épreuve. Petite flamme qui maintenant va éclairer, hein, tout ce qu'elle aura à vivre, et jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau. Et c'est très beau de voir aussi comment dans les épreuves, il y a des très grandes épreuves dans notre vie, il y a des petites épreuves, mais qui sont, quand elles sont là, elles sont déjà bien assez grandes, hein, mais qui nous préparent à aller plus loin et à comprendre plus en profondeur, à ouvrir notre cœur et le mettre à la dimension du cœur de Dieu. Mais il faut quelque part qu'elle, j'aime pas ce mot, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le bon, hein? Parce que aujourd'hui il est pris à toute sauce et psychologico machin, et c'est pas, mais il faut qu'elle lâche quelque part, il faut qu'elle cède, elle ne s'appuie pas sur son droit de mère, hein? Mais son cœur va, le désir de son cœur veut se rallumer de nouveau. On pourrait voir derrière aussi, vous savez, toute la dynamique du cantique des cantiques. La dynamique du cantique des cantiques, c'est le désir qui brûle, s'approche du bien-aimé, et puis hop, il s'en va. Hein? Et puis elle reprend, hein? Vous avez notamment chapitre 3, là, verset 1, verset 12, verset 1, je ne sais pas pourquoi il me dit ici. Sur mon lit au long de la nuit, je cherche celui que j'aime, je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Il faut que je me lève, que je fasse le tour de la ville, dans les rues, dans les places, que je cherche celui que mon cœur aime. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Je rencontre les gardes qui font le tour de la ville, etc. Et bon, avez-vous vu celui, j'interroge partout, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et à peine les avais-je dépassés, que je rencontre celui que j'aime, je le saisis et je ne le lâcherai pas. C'est impressionnant parce que la recherche, c'est souvent comme ça. Je cherche, je demande, etc. Mais il y a un dépassement. À peine les avais-je dépassés, que je reçois quelque chose, que je reçois son amour. Donc déposons devant Dieu, hein, en ce jour, nos épreuves et demandons la grâce de les relire avec Marie et avec cette force, si vous voulez, avec ce dynamisme qu'il y a dans le cœur de Marie, que ce pourquoi soit accompagné de la même docilité et pauvreté du cœur de Marie. Qui accueille, qui sait accueillir jusqu'à cette conduite incompréhensible de Dieu, mais où Jésus va révéler finalement la joie, la saveur, le sens caché, hein, de la croix. Vous voyez ici, hein, quelque chose en jeu qui est constamment aussi dans la Bible, hein, c'est que nous, on accueille quand on a compris. Et dans la Bible, c'est toujours un peu l'inverse. Donc il faudrait comprendre d'abord et puis accueillir d'abord et comprendre. Et dans la Bible et dans la pratique de l'évangile, c'est souvent l'inverse, hein. On accueille d'abord et c'est en accueillant, c'est en vivant, c'est en avançant, en étant debout qu'on va comprendre petit à petit. Vous avez ça dans le livre de l'Exode au moment du don de la loi, hein, qui dépasse un petit peu complètement le peuple, et que Moïse présente au peuple, et ils répondent nous pratiquerons et nous comprendrons. Nous, ce serait plutôt bon, alors on a compris, mais alors maintenant on va pratiquer, on y va. Hein, et avec l'évangile de Jésus, c'est souvent aussi. Il faut commencer par pratiquer l'évangile, hein, et ces phrases, ces phrases, ces comportements paradoxaux de Jésus, finalement, quelque part, mais c'est en rentrant dans le chemin, en avançant dans le chemin, que le chemin va s'ouvrir. Donc, demandons à Marie de nous accompagner, de nous donner l'Esprit Saint, ce don d'intelligence de l'Esprit Saint, pour que nos cœurs puissent s'agrandir aux dimensions du cœur de Jésus et de celui de Marie.